Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour Madame Meurice.
À quel moment est-ce que cette question de l'islam radical s'est invitée dans le débat sécuritaire au Congo ?
C'est très, très, très récent en fait. La thèse officielle qui est développée par les gouvernements congolais et ougandais présente les ADF comme un mouvement qui fait partie de la nébuleuse islamiste radicale et qui serait lié au Shebab en Somalie. Et ce groupe armé, donc, qui se trouve à la frontière de l'Ouganda et du Congo, opère là-bas depuis à peu près 20 ans, mais qui, à partir de 2014, a complètement changé de comportement et s'est mis à massacrer les villageois dans la zone de Beni de manière récurrente. Et donc, s'est présenté comme une sorte de folie islamiste, une sorte d'islamisme tropical perdu dans la jungle.
Qui serait la conséquence d'un lien avec les Chebabs ? Quelle est la réalité de ce lien ?
En fait, on a trouvé aucun lien avec les Chebabs. On a trouvé des liens avec des mouvements islamistes d'Afrique de l'Est. Djamil Mukulu, qui était le chef des ADF, a été arrêté en 2015 en Tanzanie. Et il est clair qu'il circulait dans les milieux islamistes de Tanzanie et du Kenya. Mais avec la Somalie, on n'a trouvé aucun lien. Et quand on regarde un peu le comportement des ADF, on se rend compte que c'est un groupe qui est complètement atypique par rapport aux autres groupes djihadistes qu'on connaît en Afrique, que ce soit les Chebabs, Boko Haram ou Acmi. C'est un groupe qui ne fait absolument aucune propagande et aucune communication sur le net, ne cherche pas à convertir les gens, qui n'affichent pas une certaine la conception salafiste de l'islam. La stratégie des ADF n'est pas une stratégie expansionniste, comme par exemple la stratégie de Boko Haram, on a vu, qui à partir du nord-est du Nigeria a essayé de s'étendre sur les autres pays de la zone. Au contraire, eux, ils sont dans une logique de repli et de sanctuarisation, c'est-à-dire qu'ils interdisent un certain territoire, donc une zone frontalière, à toute présence villageoise et autres. Ils ont tué des gens, rien que pour faire l'exemple, en disant voilà, il ne faut pas rentrer dans notre territoire, etc. Donc eux, au lieu d'essayer de s'étendre, ils se referment sur eux-mêmes et se replient.
Mais alors d'où vient ce soupçon d'expansionnisme ou de volonté d'imposer l'islam radical dans cette partie du Congo ?
Alors historiquement, il y avait une composante islamiste. C'était un groupe de musulmans qui était en lutte contre le pouvoir de Museveni et qui a perdu et qui s'est réfugié dans l'est du Congo. Et donc certains d'entre eux, en tout cas, sont musulmans. On a des vidéos où on voit des femmes avec des voiles, etc. Mais le fait qu'il y ait des musulmans ne veut pas dire qu'il y ait un agenda salafiste.
En revanche, le discours qui s'est développé autour de ce risque, vous le dites, aboutit à une stigmatisation de la population musulmane.
Ces tueries répétées sont évidemment extrêmement traumatisantes pour la population du Nord Kivu. Et comme les ADF sont un mystère, que aussi bien l'armée congolaise que la MONUSCO ne parvient pas à les empêcher d'agir ou à les arrêter, eh bien, il se développe des tas de fantasmes autour de ça. Et ces fantasmes donnent évidemment lieu à des réactions d'autodéfense. Et donc, on a vu émerger des groupes armés au Nord Kivu qui prennent des dénominations religieuses chrétiennes, comme le corps du Christ du Carmel, qui s'est manifesté à la fin de l'année dernière dans la zone de Butembo et de Beni, justement, en disant « Nous, on va lutter contre les ADF parce que le gouvernement et les Nations Unies ne le font pas. » Et donc, on voit cette islamophobie commencer à produire des groupes armés, et ça, c'est très, très préoccupant.
Est-ce qu'une des formes de cette islamophobie, c'est aussi ce discours qui se développe sur le supposé prosélytisme d'un contingent pakistanais de la MONUSCO qui est présent dans cette zone?
Oui, tout à fait, ça en fait partie. Là aussi, il faut se rendre compte que le contingent pakistanais de la MONUSCO est installé au sud Kivu depuis maintenant plus de 10 ans. Une des conséquences de cette installation a été la multiplication des mosquées dans la zone de Bukavu. Et cela est interprété par la population comme un prosélytisme musulman. Et au-delà de ça, parce qu'il y a évidemment, on assimile un peu tout, le développement d'un islam radical. Or, ça, ce n'est pas du tout démontré, le développement d'un islam radical.
Alors aujourd'hui, qui alimente ce fantasme-là et dans quel but ?
Bah, ce qui alimente ce fantasme-là, ce sont essentiellement les gouvernements congolais et ougandais, pour lesquels, je pense, les ADF sont une menace extrêmement utile. Alors, pour le gouvernement ougandais, qui est en lutte contre eux depuis 20 ans, c'est devenu une sorte d'ennemi naturel. Mais ce qu'on note, c'est que ça fait déjà plusieurs années que les ADF n'ont pas été capables de mener une opération sur le territoire ougandais. Et puis, pour le gouvernement congolais, qui est très impopulaire, c'est une façon de présenter une menace sécuritaire étrangère, parce que le gouvernement congolais insiste toujours sur le fait que les ADF viennent d'Ouganda, ce sont des étrangers, etc. Alors que quand on est un groupe armé installé dans un pays depuis 20 ans, on s'est largement enraciné dans le pays, et donc il y a eu une congolisation. Et donc c'est un avantage pour n'importe quel gouvernement en situation de faiblesse et qui a besoin d'être bien vu sur la scène internationale, de dire, ben voilà, je suis sous la menace du terrorisme islamiste.
Thierry Vercoulon, merci beaucoup.